Le Venezuela, comme ce pays, nous semble loin. Mais grâce à l'association Aide à l'Église en détresse, qui organise ce soir à Toulouse une conférence sur les projets qu'elle soutient dans ce pays d'Amérique latine, nous allons pouvoir traverser l'Atlantique et faire le point sur la situation du Venezuela. Pour cela, nous sommes honorés de recevoir l'évêque du diocèse de La Guaira. Bonjour, Monseigneur Bior.
Bonjour.
L'aide à l'Église en détresse a reçu le témoignage d'un médecin vénézuélien qui assiste à la lente agonie des plus fragiles. Sans médicaments, ni nourriture à procurer aux plus pauvres, mes confrères et moi sommes totalement impuissants. Et jour après jour, nous voyons les gens dépérir ou mourir sous nos yeux. Un témoignage très poignant. Monseigneur Bior, que se passe-t-il aujourd'hui au Venezuela?
Vivimos una crisis económica prolongada debido al fracaso de un modelo social y económico y político implementado hace 20 años.
Nous vivons une crise économique prolongée en raison de l'échec économique et politique d'un modèle économique et politique qui a été mis en place il y a 20 ans.
Ya todo el mundo conoce el colapso social y económico de Venezuela, que queda evidenciado en dos hechos recientes, que son hechos y no interpretaciones.
Tout le monde connaît aujourd'hui le collapse économique et social du Venezuela, qui est mis en évidence par deux faits récents. Ce sont des faits, hein, ce ne sont pas des interprétations.
El viernes pasado, el gobierno quitó 6 ceros a la moneda. En menos de 8 años, han quitado 14 ceros a la moneda.
Vendredi dernier, le gouvernement a enlevé 6 zéros à notre monnaie. En moins de 8 ans, ils ont enlevé déjà 14 zéros à la monnaie.
Esto significa una hiperinflación y el fracaso del gobierno en controlar la economía.
Cela se traduit par une hyperinflation et par l'échec du gouvernement dans le contrôle de l'économie.
El país vive un colapso económico y por esto 6.5 millones de venezolanos, especialmente jóvenes, han tenido que emigrar buscando mejores condiciones de vida y un trabajo para mantener a sus familias.
Cela est donc, représente donc un collapse économique vécu dans les pays et c'est pourquoi 6,5 millions de Vénézuéliens ont dû émigrer pour chercher des meilleures conditions de vie, hein, notamment des jeunes qui cherchent un travail pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille.
Es la mayor migración de la historia reciente, más numerosa que la de Siria.
C'est la plus grande migration de l'histoire récente, encore plus nombreuse que la migration qui a eu lieu en Syrie.
Es una hemorragia de jóvenes, es una pérdida de futuros en un país empobrecido y envejecido en un estado fallido.
C'est une hémorragie de jeunes, c'est une perte d'avenir dans un pays appauvri, vieilli, dans un état qui a fait échec.
Esto es una destrucción económica, una crisis de servicios públicos nunca vista en la historia moderna de América Latina. Una nación petrolera en ruinas, los jóvenes huyendo del desastre para buscar trabajo y condiciones mínimas de una vida digna.
C'est une crise économique, une crise de services publics qui n'avait jamais été vue auparavant en Amérique, dans l'histoire moderne de l'Amérique latine. C'est une nation pétrolière complètement en ruine. Les jeunes fuient le pays pour pouvoir trouver des conditions de vie plus dignes.
El segundo hecho es el inicio de otra negociación entre el gobierno y la oposición, que busca un acuerdo integral sobre una crisis institucional que incluya elecciones competitivas libres.
Le deuxième fait est donc le début d'une négociation entre le gouvernement et l'opposition. Et donc c'est qui cherche un accord pour pouvoir avoir des élections libres.
Se han hecho muchas negociaciones, pero por enésima vez, Nicolás Maduro y Juan Guaidó, el líder opositor reconocido por muchos países, han convenido iniciar nuevas negociaciones porque es la única solución para la gravísima crisis social y económica que tenemos.
Il y a eu déjà beaucoup de négociations, mais Nicolas Maduro et Juan Guaido, le leader connu de l'opposition, ont décidé d'entamer de nouvelles négociations parce que c'est la seule issue à la crise économique que nous connaissons.
Vous disiez, Monseigneur Björd, qu'il y a eu un exode jamais connu dans le monde. La population qui reste sur place, dans quel état de pauvreté vit-elle?
Sí, es la más grande migración. Muchos jóvenes han salido para buscar trabajo y ellos están mandando remesas para mantener a sus familias allá. La población ha sufrido un cambio en cuanto ahora hay muchos ancianos y los hijos de los padres que se fueron. Hijos sin padres, huérfanos con los padres que trabajan fuera y por lo tanto una población con mucha gente mayor y muchos niños y pocos jóvenes y poca fuerza de trabajo.
Oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont partis, hein, qui ont quitté le pays pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Ce qui se passe, c'est qu'ils partent pour chercher un travail à l'étranger et ils envoient de l'argent au Venezuela. Donc, les personnes qui restent au Venezuela, évidemment, il y a beaucoup de personnes âgées. Il y a des enfants qui n'ont pas leurs parents parce que leurs parents ont quitté le pays pour envoyer de l'argent pour ces enfants-là. Donc, c'est des familles séparées.
Ce sont des familles éclatées avec donc des grands-parents et des enfants et les personnes dans la force de l'âge ont quitté le pays. Est-ce que la crise sanitaire a augmenté, a aggravé encore cette situation au Venezuela, Monseigneur Björd?
Por supuesto, la pandemia ha agravado la situación en todos los países. Y en un país como el nuestro, donde poca gente tiene un trabajo asalariado y donde el sueldo de muchísimas personas es inferior a $2 al mes. La crisis de la pandemia ha agravado mucho la pobreza.
Évidemment, la pandémie a aggravé la situation dans tous les pays hein, du monde. Au Venezuela, c'est un pays où peu de gens ont un travail salarié. Et donc, le salaire est inférieur à $2 par jour. Donc oui, bien évidemment...
Par mois.
Donc, bien évidemment, la pandémie a aggravé la situation de pauvreté.
La última encuesta sobre la pobreza y la situación social que ha realizado la Universidad Católica revela que el 75% de la población está en pobreza crítica.
Selon la dernière enquête de l'Université catholique, 75% de la population se trouve dans une situation de pauvreté critique.
Venezuela se ubica en el segundo lugar de una lista de los 12 países más pobres del mundo, que encabeza Nigeria y sigue Venezuela, Chad, Congo, Zimbabue.
Le Venezuela se trouve dans la deuxième position, pardon, dans une liste de 12 pays les plus pauvres, où il y a le Nigeria, le Tchad, le Congo et le Zimbabwe.
Esto significa que la pandemia ha agravado más, porque muchos médicos, más de 30,000 médicos dejaron el país por el poco sueldo que tienen. Entonces, pocos hospitales que no funcionan, no hay una seguridad pública y quien se enferma especialmente de COVID, el que va a un hospital público tiene que llevar todas las medicinas, a veces el agua para lavar a los enfermos. Como me tocó con un familiar que murió y tenía que hacer 6 pisos para llevar el agua porque no tenían agua corriente.
Oui, la pandemia ha donc aggravé la situación. Plus de 30 000 médecins ont quitté le pays. Donc, il y a peu de ressources hein, dans les hôpitaux. Il y a peu d'hôpitaux, il y a pas de sécurité sociale. Et donc, tous les malades, notamment les malades de Covid, mais tous les malades en général, doivent apporter leurs médicaments à l'hôpital. Il n'y a pas d'eau. Donc, moi, par exemple, j'ai perdu quelqu'un de ma famille. Je devais faire 6 étages pour monter de l'eau parce qu'il n'y avait pas d'eau courante.
Esto dice que hay una grave pobreza en la salud, en los alimentos. Hay mucha desnutrición. Y la Iglesia está muy comprometida en temas como alimentación, salud y educación.
C'est-à-dire qu'il y a une grande pauvreté au niveau de la santé, au niveau de l'alimentation, une énorme dénutrition. Et l'Église est fortement engagée dans les sujets comme l'éducation, la santé et l'alimentation.
Alors l'Église, justement, nous allons en parler, puisque je le rappelle pour à nos auditeurs, vous êtes Monseigneur Björn, l'évêque du diocèse de La Guaira. Ce diocèse est situé sur la côte du Venezuela, près de l'aéroport international. Il est bordé par une chaîne de montagnes. Quelle est la place de l'Église dans ce pays du Venezuela?
L'Église est la única institución reconocida por la gente. Tenemos más del 80% de credibilidad, más del doble de otra institución que pueda tener credibilidad.
Y l'Église est la seule institution reconnue par les gens. On a plus de 80% de crédibilité, plus du double de n'importe quelle autre institution qui est de la crédibilité.
Y la credibilidad viene de la presencia de la Iglesia en los barrios más pobres, por nuestro trabajo en la salud, por la presencia de Cáritas, porque nuestros sacerdotes, religiosas, laicos, están compartiendo con un pueblo que sufre.
La crédibilité vient de la présence de l'Église auprès des gens, notre travail avec les gens, la présence de Caritas, parce que nous travaillons donc auprès des gens qui souffrent.
Vous parliez, Monseigneur, des prêtres. Est-ce que les prêtres sont aussi en première ligne pour aider les habitants du Venezuela?
Sí. Los sacerdotes, pero también las religiosas, los diáconos permanentes, los catequistas, la iglesia que somos todos, pero la iglesia tiene una fuerte presencia porque estamos en, las parroquias están en todos los lugares de Venezuela, en mi diócesis en los lugares más pobres, en cualquier barrio, cualquier urbanización, hay un sacerdote que no solamente dice misa, sino que organiza todo un movimiento de caridad. Y sobre todo un movimiento también social de agregación de las personas.
Oui, les prêtres évidemment, mais aussi les religieuses, les diacres, les catéchistes. L'Église est présente dans toutes les paroisses. Il y a des paroisses partout, bien évidemment, au Venezuela. Il y a des paroisses très, très, très pauvres dans mon diocèse. Et donc, c'est une œuvre de beaucoup de charité. Les prêtres, ils ne font pas seulement la messe, hein, mais ils sont vraiment auprès des gens les plus pauvres.
En mi diócesis, tenemos 44 comedores populares, donde comen en cada uno 100 niños. Hay unos 600 voluntarios que preparan gratuitamente la comida todos los días de la semana. Y son muchos los niños que vienen. Hay también adultos mayores, hay también ancianos, pero en este momento, con los pocos recursos, preferimos dar esa comida a los niños porque necesitan seguir estudiando. Sin esa comida no podrían seguir en las escuelas.
Dans mon diocèse, il y a 44 cantines populaires, hein, où il y a de la nourriture pour 100 enfants. Ces cantines fonctionnent avec 600 volontaires, hein, qui viennent bénévolement préparer à manger. Il y a énormément d'enfants, il y a bien sûr aussi des adultes et de personnes âgées, mais en ce moment, avec la crise, nous préférons accorder la priorité aux enfants, parce que sans cette nourriture, les enfants ne pourraient pas aller à l'école, ne pourraient pas étudier. Et donc, pour renforcer l'éducation, il faut leur donner la priorité.
Son 5200 niños que vienen a nuestros comedores entre 7 y 12 años.
Nous avons 5200 enfants âgés de 7 à 12 ans qui viennent dans nos cantines.
Est-ce que c'est l'œuvre de cette association que, pour laquelle vous venez faire une conférence ce soir à Toulouse? Est-ce que c'est par cette association que vous arrivez à aider justement tous ces enfants à être nourris?
Si, esta asociación y otras asociaciones católicas nos ayudan. También católicos de Venezuela también nos ayudan. Pero especialmente distintas asociaciones como esta de la iglesia que ayuda a los países que sufren, a la iglesia que está en sufrimiento. Nosotros agradecemos a tantos bienhechores porque gracias a ellos sigue la esperanza y podemos estar ahí. Realmente la ayuda es importante porque permite que la iglesia no abandonemos los sacerdotes, no abandonemos a nuestros fieles y compartamos con la gente que tiene más necesidad de esperanza.
Oui, il y a plusieurs associations catholiques. Il y a aussi, bien sûr, les catholiques vénézuéliens. Mais évidemment, l'Aide à l'Église en détresse, hein, c'est une association qui aide l'Église en souffrance, hein, comme son nom le dit, en détresse. Et nous remercions vraiment ces bienfaiteurs de ces associations, parce que cela permet de garder l'espoir et de pouvoir être présent et de pouvoir aider ceux qui sont là pour leur apporter justement cet espoir.
Nous savons qu'une des missions à l'Église en détresse, c'est de faire dire des messes par les prêtres. Est-ce que ça, ce moyen, c'est vraiment pour aider à la subsistance des prêtres eux-mêmes?
Es así. Podemos, los sacerdotes pueden comer y subsistir gracias a esta ayuda de las intenciones de misa. Un sacerdote puede celebrar todas las misas, todos los días, 3-4 misas los domingos, pero la gente es tan pobre que no tiene nada que dar. No pedimos ningún dinero por los sacramentos, pero un sacerdote puede tener $10 por un mes para vivir, y eso no le alcanza ni para comer una semana.
Oui, bien sûr, les prêtres nous disons des messes et évidemment ces offres, ces offrandes de messes, c'est ce qui aide les prêtres à manger, parce que un prêtre au Venezuela, il peut faire 3 ou 4 messes par jour. Nous ne demandons pas d'argent, bien sûr, pour les sacrements, etc. Mais les gens qui viennent à la messe sont tellement pauvres qu'ils ne peuvent rien donner à la quête. Et donc, un prêtre par mois, il va toucher entre 8 et 10 dollars seulement par mois. Donc c'est très difficile.
Outre l'aide aux prêtres et aux enfants pour les nourrir, est-ce que le diocèse de La Guaira a une autre mission dans cette crise du Venezuela?
Sí. Además de los comedores populares, la diócesis de La Guaira permanentemente tiene 25 escuelas católicas donde estudian los niños más pobres. Son 25 escuelas católicas con las cuales queremos dar una educación, porque es la educación lo que permitirá a estos niños pobres salir de la pobreza.
Oui, en plus des cantines, bien sûr, dans le diocèse de La Guaira, nous avons 25 écoles catholiques où nous accueillons les enfants les plus pauvres. Ces écoles nous permettent donc d'apporter l'éducation aux enfants, parce que c'est par l'éducation que les enfants pourront sortir de la pauvreté.
Además, tenemos dos hospitales. El hospital católico es el único que presta servicios de oncología. Es un hospital que tiene unos 80 médicos. Y tenemos un ambulatorio con otros 40 médicos para hacer las consultas. Y estamos en proyecto de abrir otros 5 pequeños dispensarios que tengan un médico pediatra, un médico ginecostetra y un médico general en los lugares donde no hay ninguna presencia de la salud pública.
Oui, nous avons aussi 2 hôpitaux. Il faut savoir que dans l'hôpital catholique, c'est le seul hôpital qui a un service d'oncologie dans notre diocèse. Nous avons aussi des maisons médicales. Donc l'hôpital, il y a 80 médecins. Dans la maison médicale, il y a 40 médecins. Et nous avons le projet d'ouvrir 5 autres maisons médicales pour pouvoir offrir des services de pédiatrie, de gynécologie et d'autres services.
Et est-ce que pour cela, vous avez les médecins nécessaires, le personnel?
Sí, tenemos, todavía quedan gente que está médicos, enfermeras, que están ahí, con sueldos muy bajos y con la tentación de irse del país. Y por eso algunos proyectos que estamos haciendo con distintas asociaciones católicas es para pagar a los médicos, que no se vayan los médicos del país, que se queden ahí, que estén con nosotros.
Oui, il reste encore des personnes, il reste encore des médecins, des infirmières qui travaillent pour des salaires qui sont très très bas et qui bien sûr ont envie de quitter le pays. Et donc nous travaillons avec eux et nous essayons de faire en sorte qu'ils puissent rester dans le pays, qu'ils ne quittent pas le pays pour qu'ils puissent travailler.
Tenemos 8 farmacias populares donde pedimos donaciones a la gente de las medicinas que envíen lo que han comprado y le ha sobrado alguna pastilla. Tenemos otras asociaciones que nos ayudan con medicinas y estas medicinas entonces atendemos en estas farmacias populares a las personas que vienen con su prescripción, muchas veces del hospital público para una operación, y que necesitan esta ayuda de medicinas.
Nous avons également 8 pharmacies populaires. Ces pharmacies fonctionnent par des dons. Hein. Des fois, les gens, ils achètent des médicaments, ils en ont un peu trop, donc du coup, ils peuvent donner leurs médicaments. Cela fonctionne aussi par des associations. Et donc, les personnes peuvent venir de l'hôpital public avec leur ordonnance et trouver les médicaments dans ces pharmacies.
Et finalement, nous avons une radio diocésaine. No tan bonita como la radio Presence, pero una radio que hace presencia con la evangelización y dando buenas noticias. ¿Qué es lo que más importante necesitamos allá? Mantener la esperanza de que sí tenemos posibilidades de salir adelante y superar la crisis. La radio nos permite decir la misa todos los días. La radio nos permite también hacer programas de pastoral y también nos permite dar algunas clases, algunas lecciones para los niños en las escuelas, sobre todo en este momento de pandemia que no pueden ir a las escuelas presencialmente.
Nous avons également une radio hein, qui n'est pas aussi belle. On n'a pas des studios aussi beaux que les studios de Radio Présence, mais c'est une radio qui nous permet justement cette présence. Et cette présence est extrêmement importante pour que les gens gardent espoir. Donc dans cette radio, nous faisons la messe, nous avons la pastorale, nous faisons de l'évangélisation. Et cette radio nous permet aussi de donner des leçons aux enfants, hein, des cours en fait, des cours aux enfants, comme ils ne vont pas à l'école, on a les cours donc à la radio.
Voilà, une belle mission de radio, belle mission d'église. Merci beaucoup, Monseigneur Raoul Björg Castillo, d'être venu jusqu'à nous pour nous rendre compte de la situation au Venezuela. Vous nous avez rappelé combien l'action de l'église est importante dans ce pays. Merci aussi à votre interprète, Lorena Deno. Je rappelle la conférence que vous donnez aujourd'hui à 20h à l'église du Sacré-Cœur de Toulouse pour l'aide à l'église en détresse. Merci beaucoup.
Merci beaucoup et tout à l'heure.